Et bonjour, bienvenue dans l'Étoile polaire, l'émission d'astronomie amateur sur RDIWA 107.5, 101.7 dans le district de Luc. Alors, on est ravis de vous retrouver pour ce 46e épisode de l'Étoile polaire. Aujourd'hui, on est trois dans le studio, Fred qui vous parle, et puis Axel et Rémi.
Bonjour tout le monde.
Salut à tous.
On passe la bise à Pierrick. Oui. Alors, épisode 46. Alors d'abord, pour commencer, je rappelle que vous pouvez toujours nous joindre par mail à l'adresse de l'émission qui est astro-rdwa@protonmail.com et que vous pouvez aussi retrouver tous les épisodes en podcast illustrés par les photos de l'équipe, que ce soit Rémi ou Axel, sur le site de RDIWA, rdwa.fr, dans la rubrique émission, puis émission thématique, puis l'étoile polaire. Voilà. Alors, de quoi on va parler aujourd'hui? On va d'abord faire un petit point d'actu sur la mission JUICE qui vient de décoller en direction de Jupiter. Ensuite, ce sera un peu le ciel ce soir, comme d'habitude, décrire un peu ce qui est observable en ce moment. Ensuite, je ferai un petit point d'astronomie, on pourra appeler ça de l'astronologie, pour terminer ce petit cycle sur les liens entre astronomie et astrologie. Voilà. Après la pause musicale, ce sera Rémi, notre envoyé spécial dans le ciel austral, qui va nous raconter un peu ce qu'on voit de l'autre côté du globe. Et pour terminer, ce sera Axel, qui va nous parler de l'éclipse de soleil de 1961, dans le sud-est de la France, et des gens qui l'ont observé.
C'est ça. Point d'actu en retard. Commémoratif.
Rétroactif.
Alors c'est parti, historique. On va commencer donc avec cette mission JUICE. Donc il y a une fusée là qui a décollé hier.
Qui a décollé ce vendredi 14.
Oui, voilà, c'est ça, vendredi 14. En direction de Jupiter. Et donc, cette mission JUICE, ça veut dire Jupiter Icy Moons Explorer, c'est-à-dire l'explorateur des lunes glacées de Jupiter. Donc, concrètement, c'est une mission qui a pour but de survoler les satellites de Jupiter, les quatre plus gros satellites qui avaient été découverts par Galilée avec sa lunette, Io, Europe, Ganymède et Callisto. Il semblerait donc que Ganymède, Callisto et Europe qui sont des mondes glacés et sous la surface de glace, un océan liquide. Et les questions que se posent un peu les scientifiques, c'est quelle est la composition de cet océan? Et puis, évidemment, derrière, y aurait-il de la vie? Ou en tout cas, les conditions...
Qu'est-ce qui s'y passe?
Donc, cette sonde, elle est partie. Elle va mettre plusieurs années avant d'arriver jusqu'à Jupiter. En fait, c'est une mission qui va probablement donner des résultats plutôt en 2030. Donc d'abord, elle fait des tours autour de nous et de Vénus pour faire des effets de fronde gravitationnelle et pouvoir en profiter pour aller plus vite jusqu'à Jupiter. Elle arrivera en orbite autour de Jupiter en 2031. Oui. Donc là, voilà, c'est un gros temps de pause.
8 ans de voyage.
Ça donne quand même l'idée des distances aussi. Quoi. Oui. C'est-à-dire qu'on dit que déjà Mars, c'est loin, mais là, Jupiter, c'est quand même le cran au-dessus, c'est au-delà de la ceinture d'astéroïdes. On est beaucoup plus loin.
D'ailleurs, elle devait initialement décoller le jeudi 13 avril. Et les conditions météo à Kourou, puisque c'est de là qu'elle est partie, en Guyane française, les conditions n'étaient pas bonnes, il y avait des risques d'orage, de foudre. Et ça a été décalé de 24 heures pour partir le vendredi. Mais le créneau de lancement était quand même resserré. Ils espéraient que ça allait vite se dégager, qu'ils puissent partir vite, parce que le moment était important pour bénéficier de la fronde gravitationnelle de Vénus, justement, contourner Vénus, s'accélérer grâce à sa gravité pour partir plus vite vers Jupiter. Et donc, c'est vrai, il fallait cette fenêtre précise.
Voilà, bon, on peut rappeler l'effet de fronde gravitationnelle, c'est vraiment... en fait, les grosses planètes ont un champ gravitationnel assez intense. On voit bien que la Lune est capturée quand même dans le champ gravitationnel de la Terre et tourne autour. Mais pour les satellites, c'est pareil. Donc en fait, quand ils passent avec une grande vitesse à proximité d'une planète, ça fait exactement comme une fronde. C'est-à-dire que ça va les faire repartir plus vite dans une autre direction. Et ça, les gens qui envoient les sondes, ils sont capables de le calculer et de... et d'en profiter. Donc là, elle va faire 2-3 petits tours autour de nous avant de partir pour un voyage quand même de quelques années jusqu'en 2031, où là, elle se mettra en orbite autour de Jupiter de façon transitoire. Et ensuite, donc, va survoler
les lunes.
Callisto et Europe, Ganymède et Europe. Ouais. Donc les imager. J'imagine déjà faire un certain nombre de mesures, mais à distance. Mm-hmm. Et ensuite aller vraiment orbiter pendant 2-3 ans autour de Ganymède. Ah oui. Pour déjà le cartographier et puis le sonder, hein, très clairement, même si alors il n'y a pas d'atterrisseur de prévu, je crois pas.
Non, je crois pas.
Ça reste de la surveillance. Voilà,
depuis... ça serait le premier satellite artificiel en orbite autour d'un satellite naturel, je crois. On a envoyé beaucoup de choses autour des planètes.
C'est bien possible. Ouais.
Ou à proximité parfois de planètes naines, d'astéroïdes, mais en orbite vraiment. C'est...
Donc voilà, il y a. Ouais, c'est peu courant. Moi, je trouve que c'est c'est une mission qui me. J'ai trouvé intéressant d'en parler parce que c'est une mission vraiment sur le long terme, pour le coup, qui va un peu dans le sens d'exploration un peu plus avancée du système solaire, où on fait quelque chose, mais il n'y a pas de rentabilité immédiate ou quoi que ce soit. C'est vraiment pour la connaissance, pour aller voir. Même si derrière, il y a des idées. Mais c'est plus par rapport à la vie, en fait. Je pense aussi au fait qu'on réalise bien que quand même notre planète, son écosystème, il est gravement endommagé. On commence à voir aussi un petit peu ailleurs ce qui peut se passer, comment on peut trouver d'autres sources. Bon. Il y a beaucoup de choses qui se cristallisent autour de ça. Évidemment, la recherche de la vie, tout simplement. Quoi. Mmh. Voilà pour cette mission JUICE. Donc, on lui souhaite bon voyage et on verra ça en 2030.
Bravo aux équipes d'Ariane Espace et autres qui ont participé. C'est une mission européenne, je crois. Mmh. Je ne sais plus si tu l'as dit.
Non. Ouais. Ok, mission européenne, voilà. Oui, c'est l'ESA qui a effectivement organisé ça, l'Agence spatiale européenne. Et puis, ne serait-ce que d'avoir les cartographies, hein, je pense, un peu précises de ces mondes, ça va être beau. Quoi.
Oui, des photos rapprochées. Ouais.
Ok, alors on va passer au ciel ce soir. Là, en ce moment, le temps est plutôt couvert, mais... Il y a quand même des fenêtres. Alors, on va partir. En ce moment, ce qu'on a, c'est vraiment tout ce ciel d'hiver qui se couche en fait assez tôt, avec en particulier le Taureau et toute cette zone-là du ciel qui disparaît.
Le Cocher.
Voilà.
Orion.
Et ensuite, on a quand même cette partie du zodiaque. On en reparlera du zodiaque après, avec le Cancer, et puis le Lion.
Le Lion, la Vierge.
Donc la Vierge, voilà ces constellations-là qui sont là en début de soirée, avec Orion. Et ensuite, à mesure que va avancer la nuit, eh bien, on va avoir en deuxième partie de nuit l'arrivée du ciel d'été avec, par exemple, Hercule, enfin le Bouvier.
Oui, même assez tôt dans la nuit, tôt, finalement, parce que j'ai fait une animation avant-hier et on a pu observer M13, la main d'Hercule, à 22h30, 23h peut-être. Ouais.
Voilà donc le ciel d'été qui arrive. On a toujours les constellations circumpolaires, hein, celles qui sont là toute l'année, donc qui servent quand même aussi de point de départ pour s'orienter, et particulièrement la Grande Ourse et Cassiopée.
Ah, oui, d'ailleurs, je voulais en parler un peu de la Grande Ourse en ce moment, puisque l'été, là où je fais la plupart de mes animations, quand je demande aux gens, il y a une constellation que vous connaissez forcément, est-ce que vous pouvez me la montrer? Ils me disent tous la Grande Ourse, et ils me la montrent, la casserole. J'ai essayé avant-hier avec ce ciel qui est encore un peu d'hiver. Et ils m'ont répondu oui, la Grande Ourse. Oui, montrez-la moi. Ils ont cherché partout, ils ne l'ont jamais trouvé. Parce qu'en ce moment, la Grande Ourse, elle est complètement renversée. Si on imagine la casserole pleine d'eau, toute l'eau est vidée, complètement à l'envers. Le manche part vers la droite.
Et c'est pas le moment de l'année où elle est la plus facile à repérer. Ouais.
Voilà, on l'attend moins comme ça. C'est intéressant aussi de l'observer dans ce sens-là.
C'est là aussi que Cassiopée sert bien de repère, quoi. Parce qu'on peut partir aussi du ciel. Alors c'est un peu moins évident, mais sous le W de Cassiopée, il y a quand même Persée, et Persée qui amène lui-même à toute une autre région du ciel, quoi. Donc, c'est bon. En tout cas, voilà, repérer ces constellations. En ce moment, c'est ça qu'on peut voir. Au niveau des planètes, eh ben, le soir, on a toujours Vénus qui brille quand même bien fort.
Très haute.
Oui, c'est impressionnant de la voir aussi brillante, là, de ces mille feux. À 22h, elle est encore bien haute, en pleine nuit.
Donc Saturne.
On a souvent plutôt de jour. Ouais. Puis, on l'a déjà dit, mais ça ne fait pas de mal de le rappeler, elle brille énormément, Vénus. parce qu'elle est très brillante d'elle-même, elle a une grosse atmosphère, et elle est très proche. Et c'est elle qu'on appelle communément l'étoile du berger, qui n'est pas une étoile. Je rappelle, parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui... Enfin, c'est ambigu, cette histoire.
Revient tout le temps, ouais. Ça revient tout le temps.
Donc voilà, pour faire court, les étoiles, c'est pas pareil que les planètes. Les étoiles, elles brillent. Les planètes, elles réfléchissent la lumière des étoiles. Et Vénus, qui est donc une planète, mais qu'on appelle l'étoile du berger. Parce qu'il fallait lui trouver un nom. Elle est très brillante, très remarquable.
Non, mais voilà. C'est parce que tu la vois quand même. Elle est toujours elle est assez proche du Soleil, oui, vu que c'est une planète qui orbite proche du Soleil.
Plus proche que nous.
Donc, du coup, elle n'est jamais bien loin du Soleil dans le ciel, par effet de projection. Oui. Donc, tu la vois forcément bien le matin ou le soir. Donc, ce qui sont des moments où, eh ben, oui, les bergers, ils sortaient. Mais c'est sûr qu'il y a toujours cette confusion en disant, ah oui, on la voit le soir et tout. Ben non, en fait, des fois, on la voit le matin, des fois, on la voit le soir. Et puis, ce n'est pas une étoile, c'est une
techniquement,
planète.
En tout cas, c'est elle qui brille beaucoup.
Voilà, donc on peut observer Vénus dans le ciel du couchant. Pour Saturne, elle est déjà couchée. Jupiter, c'est un peu pareil.
Pareil, elle est très proche du Soleil.
Et il reste Mars, mais qui est dans le Taureau ou un peu au-dessus et qui, de toute façon, se couche tôt et
qui est brille loin, de moins en moins.
Bas, voilà, donc c'est pas non plus... Donc en termes de planètes, en réalité, pour les instruments, il n'y a pas grand-chose d'intéressant.
J'ai aperçu Mercure l'autre jour.
Oui, alors on peut voir Mercure.
Ouais, on a pu voir Mercure. Après, voilà, il faut avoir un horizon assez dégagé sur l'ouest. Quoi. Et c'est vraiment soleil couchant.
Je crois jusqu'à début mai.
C'est ça.
Ouais. Je n'ai pas vu encore.
Puis Vénus va commencer à descendre à la mi-mai aussi. Tranquillement.
Ok, donc voilà pour ce ciel. Après, à l'intérieur de ce ciel, vous avez toujours tous ces objets observés, les objets Messier et d'autres.
La liste est vaste, comme on le disait la dernière fois, c'est vraiment la saison des galaxies, avec le lion, avec la Vierge, la chevelure de Bérénice, même la Grande Ourse aussi, qui est très haute, du coup, puisque là, elle est au-dessus de l'étoile polaire.
Oui.
On a accès à M51, M101, M80.
106,
Le choix est vaste pour les amateurs de galaxies.
Alors, on va continuer cette émission avec la rubrique d'après. Donc là, je vais donc vous parler, on va dire, d'astronologie, d'astronomie, astrologie. C'est continuer un petit peu ce que j'ai fait dans les deux dernières émissions, avec plus ou moins de succès, sur les liens entre ces deux disciplines. Là aujourd'hui, j'ai envie de parler un peu de ce qui les relie, parce que la dernière fois on a plutôt parlé des endroits où elles ne pouvaient pas se rejoindre en termes de vision et de tous les arguments scientifiques d'ailleurs complètement valables qui sont argumentés. On va pas refaire ce débat, on l'a fait dans les émissions d'avant. Là, je vais plutôt montrer là où ça peut se rejoindre et en tout cas
où ça se croise.
D'un point de vue, on en a déjà parlé, mais d'un point de vue personnel, en fait, pour chacun, dans ce qu'il voit dans le ciel, en fait, au-delà de lire des trucs ou d'aller chercher de l'information ailleurs, mais juste déjà ce que soi, on peut avoir, ça peut évoquer pour soi-même. Donc, je vais commencer d'abord par le zodiaque. Donc là, c'était le premier point que j'avais abordé, donc il y a deux émissions, pour expliquer ce texte zodiaque. Donc je vais faire un bref rappel pour ceux qui n'ont pas suivi. Le zodiaque, c'est les 12 constellations du ciel à travers lesquelles le soleil voyage au cours de l'année. Donc là, on rappelle, on se met vraiment sur la Terre, on observe le ciel depuis la Terre, donc tout est projeté. Vous avez toutes ces étoiles lointaines qui forment comme une sphère immobile. Enfin, qui tourne, mais on sait que c'est nous qui tournons. Et là-dedans, en fait, ça vous fait un fond du ciel, donc toutes ces cartes des constellations. Et vous regardez où est le Soleil, et le Soleil, il fait un tour dans ces 12 constellations du zodiaque. En fait, on l'a dit, c'est parce que ces constellations-là, c'est le prolongement en fait du disque du système solaire. Si on prolonge ce disque, cette direction-là, puisqu'on a dit toutes les planètes, elles sont dans un même disque autour du Soleil.
Contrairement à la Terre, le système solaire est plat.
Ouais, c'est ça. Donc, et on prolonge ce disque-là, et on tombe sur des étoiles qui sont dans des constellations, et il y en a 12, et c'est ça le zodiaque. Bon. Donc, on avait dit que pour l'astronomie, notre signe astrologique était déterminé comme ça, que c'était l'endroit où était le soleil, en fait, au moment de notre naissance. Alors, ce zodiaque, maintenant, en tant qu'astronome qui observons le ciel, à quoi il ressemble ? On a effectivement ces 12 constellations. En réalité, déjà, la première chose qu'on constate, c'est qu'elles n'ont pas du tout toutes la même taille. Mmh. Et oui. Ça, c'est un point qu'on n'a pas abordé. Mais en fait, si vous voulez vraiment vous amuser à faire un calendrier au cours de l'année réel, où est le soleil, à quel moment, non seulement il y a les fameuses 3 semaines de décalage dont on parlait à cause de la précession des équinoxes depuis des tables établies il y a 2000 ans, mais en plus de ça, en fait, les constellations n'ont pas toutes la même taille. Et vous avez clairement des constellations qui mettent moins de temps à être traversées que d'autres.
Oui, oui. En astronomie, on a imaginé une grille sur le ciel qu'on divise en degrés et plus petits, mais on ne va parler que des degrés. Et oui, on voit bien que, je ne sais pas, le bélier est beaucoup plus petit angulairement que la vierge.
Par exemple.
Le lion, le cancer, ouais.
Voilà.
Rien à voir.
Donc
c'est pas divisible par 12, précisément. Voilà.
Après, on peut faire une table comme ça, basée sur l'observation. Moi, à une époque, je me suis amusé à le faire. Des signes astrologiques réellement traversés par le soleil à des dates effectives observées par l'astronomie. Et pourquoi pas partir là-dessus, par exemple. Bon. En tout cas, ce zodiaque, maintenant, à quoi il ressemble bien, par exemple, le bélier, c'est une sorte de virgule à 3 étoiles dans le ciel. Voilà, ça va pas beaucoup plus loin. Le taureau est très beau. Le taureau, le V du taureau,
V,
avec Aldébaran, l'étoile orange brillante. Donc là, voilà, par exemple, vous avez un signe comme le taureau. C'est clair que quand vous l'observez dans le ciel, en plus, l'image du taureau, ça dégage quelque chose. Forcément, dans l'inconscient de chacun, ça évoque des images de force, de connexion à la Terre, de plein de choses.
D'ailleurs, cette année, l'opposition de Mars, qui était au mois de janvier, si je me souviens bien, Mars était dans le taureau, ça donnait des beaux spectacles, des belles images à voir.
Voilà, alors ça donne de belles images, et c'est là que l'astrologie, elle va dire, ça brasse des énergies aussi. C'est-à-dire que c'est pas forcément ces alignements-là qui créent ces situations, mais ces alignements vont être des illustrations que nous offre le cosmos d'une réalité de l'énergie sur Terre. Et voilà, alors, je vais pas aller plus loin dans cette voie-là, mais la porte, ça peut être ça.
Je vois.
Et donc, observer les constellations soi-même, regarder ce qu'elles nous évoquent. Donc, par exemple, les Gémeaux, c'est une espèce de rectangle avec Castor et Pollux. Mais le Lion, on en a parlé. Le Lion, c'est une très belle constellation, par exemple.
Les Gémeaux, je les vois bien aussi. Les Gémeaux, on les voit très bien. L'épaule.
Et c'est là aussi que chacun il fait un peu sa petite sauce. Oui, mais en tout cas, les constellations, ce qui est intéressant, je trouve, c'est de les observer soi-même et de voir, en fait, toujours pareil, le symbole qu'elles dessinent et ce que ça peut nous évoquer ou pas. Mais de toute façon, ne serait-ce que si on reste à un point de vue esthétique.
Inventer nos propres constellations.
Ça suffit déjà. Il y a déjà quelque chose qui se passe. Voilà, le Lion, mais par exemple le Cancer, la Balance, la Vierge, c'est des constellations qui sont beaucoup plus diffuses. Oui. Les Poissons aussi.
Je crois que c'est la plus grande.
Alors la Poisson, elle est très étendue, mais il faut déjà un bon ciel pour bien la visualiser. Oui. Après, elle est marrante parce qu'elle marque vraiment comme un début d'origine sur l'axe du. Tu vois, il y a cette espèce de piquer là comme ça. Enfin, les poissons sous Pégase, voilà. Le Verseau, il est présent, mais c'est bon pour moi, c'est une espèce de W là, un peu aplati. Mais il est quand même clair, il est reconnaissable, mais il n'est pas non plus.
Pas marquant.
Par contre, le Scorpion, tu vois. Voilà une constellation, mais qui est majeure dans le ciel. C'est tout le monde. Dans toutes les cultures, cette constellation a été divinisée d'une façon ou d'une autre. Et là, pour le coup, je ne sais pas si par rapport au ciel austral, mais quand tu descends en latitude et que tu vois du coup le Scorpion en entier avec la queue, c'est quand même quelque chose. Ouais. C'est une sacrée constellation.
On peut le voir de certains endroits à nos latitudes. Je l'ai vu, je me souviens précisément, dans la descente entre les deux ronds-points de Montoison. Un soir, là, je descendais avec le creux des montagnes en face, au sud, on voyait vraiment l'entièreté du Scorpion jusqu'au crochet. J'ai oublié le nom des étoiles.
Avec Antares.
Et Antares, bien sûr, les pinces devant. Ouais.
Donc voilà, c'est déjà ce que j'avais envie de dire sur le zodiaque et les constellations dans ce type de registre un peu astronologique, si on a envie de croiser un peu les trucs. Donc après, une fois qu'on a ce zodiaque, alors évidemment, on a le soleil qui se balade dedans. Bon, par-dessus, il y a la lune, j'en parlerai pas, mais il est évident que la lune, elle joue un rôle majeur dans, dans l'imagerie de la nuit. Elle se déplace aussi là-dessus, mais autrement, parce qu'elle tourne autour de nous. Oui. Donc là, c'est une autre mécanique.
Mais elle reste sur le cercle elliptique, quoi, sur la trajectoire.
Ouais. Donc maintenant, les planètes. Alors, les planètes, là aussi, pour moi, il y a une distinction entre les planètes visibles à l'œil nu et celles qui ne le sont pas. C'est-à-dire que très clairement, Mercure, Vénus, Mars, Jupiter, Saturne, ça, c'est observé depuis toujours.
Oui.
Donc, depuis au-delà de l'Antiquité, c'est des astres qui ont été identifiés.
Bah oui, on a remarqué que... qu'elle bougeait alors que les autres étoiles ne bougeaient pas.
Elle se déplace.
Donc. Et on a remarqué aussi, je pense, à l'époque que l'homme a pu voir que ça brillait sans scintiller, contrairement aux étoiles.
Il y a effectivement une différence de luminosité, une différence d'éclat, en fait, de façon de briller entre les deux. Une planète va avoir quand même tendance à avoir un éclat plus fixe qu'une étoile. Alors, donc pour ces planètes-là, on va déjà commencer parce que pour moi, déjà, si on veut, pareil, hein, toujours aller dans ces trucs un peu symboliques, mythologiques, en fait, ces planètes-là, elles jouent un rôle majeur dans l'astrologie et dans la vision du ciel. Même nous, on en parle tout le temps des planètes, ne serait-ce que pour les observer. Là, maintenant, on en parle aussi pour aller les imager avec des sondes. Les planètes, c'est quelque chose, c'est d'autres mondes qui nous attirent. Et alors, si on regarde, c'est un peu intéressant, c'est Mercure, la planète la plus proche du Soleil. En fait, c'est le messager des dieux. Donc, c'est Hermès. Alors, ce qui est intéressant, ce qui est rigolo, je trouve, c'est que Mercure, le Soleil, clairement, c'est Dieu. Enfin, dans la vision antique, le Soleil, il n'y a qu'à voir les Égyptiens, il n'y a qu'à voir ce qu'on veut. C'est vraiment la source de toute vie. Il a été très vite divinisé, le Soleil. C'est une des premières divinités. Et on a juste à côté de lui, on a son messager qui tourne autour en permanence et qui peut envoyer des trucs. Okay. Et après, si on regarde la Terre, on est quand même encerclé de deux planètes qui sont Vénus et Mars. Et là, évidemment, les symboliques, elles sautent aux yeux. Quoi. Donc, on a d'un côté le dieu de la guerre, Arès, un principe masculin, viril, etc. Et
avec de l'autre planète rouge.
Avec cette planète rouge.
Le sang.
Etc. Et de l'autre côté, on a Vénus, donc sur l'étoile du berger, mais donc cette planète très brillante, qui est jamais aussi très loin du Soleil, et qui, dans toutes les civilisations, a été identifiée comme féminine. Et donc, c'était Ishtar, par exemple. Astarté, etc. Artemis. Et puis après, si on va, ça devient Kali. Ça devient, en fait, ça devient un principe féminin de toute façon.
De beauté.
Un principe à la fois de beauté, d'amour, d'intouchabilité, mais aussi.
Lumière.
Ouais, mais aussi toujours un côté un peu retors qui te retombe dessus et que si tu fais trop le malin, t'en prends plein la gueule. Enfin, dans la mythologie, quand même, il y a aussi cet aspect-là d'Aphrodite. Qui prend ses amants et qui les jette, quoi. Qui fait ce qu'elle veut, en fait, qui est libre.
Artemis, qui est aussi la déesse de la chasse, ça, non ? Je dis n'importe quoi. Alors, c'est l'amour et la chasse.
C'est quand même plus Aphrodite qu'Artemis, Vénus.
Okay.
Enfin, Vénus, c'est Aphrodite, en fait.
Okay,
Vénus, c'est le nom latin de
Aphrodite. Oui, c'est ça. Mmh. Ok, d'accord.
Donc voilà pour ces planètes. Donc là, évidemment, quand vous avez, Mars dans le taureau ou quand vous avez Mars dans la Vierge, en réalité, les interprétations qui sont pas les mêmes. Si on a envie de rentrer là-dedans, et ça, je laisse chacun faire ce qu'il veut.
On peut imaginer des histoires là-dessus. Oui, voilà. Bien sûr.
Donc voilà, pour ces planètes connues depuis l'Antiquité. Maintenant, des planètes, il y en a d'autres. Et là, c'est un petit peu d'histoire. Il y en a une première qui a été découverte, c'est Uranus, donc ensuite, en 1781 par Herschel. Et Herschel, en fait, il l'a découverte, on va dire un peu par hasard, c'est-à-dire qu'il était en train de faire des photos pour faire des observations pour faire des recherches systématiques d'étoiles. Il cherchait à faire des catalogues d'étoiles, en fait. Et c'est en faisant ça qu'il est tombé sur ce corps. Et il a vu qu'il se déplaçait sur le fond du ciel. Et donc, il a découvert Uranus. Et de là, en fait, ça s'enchaîne parce que ils ont étudié la trajectoire d'Uranus. Et en fait, ils ont observé des perturbations. Et en fait, c'est Le Verrier, en 1846, qui déduit par le calcul l'existence de Neptune à partir de ce qu'il observe de l'orbite d'Uranus. et du fait qu'elle est perturbée par la présence de Neptune. Oui. Donc il arrive à faire ce calcul et à découvrir Neptune.
Calcul, il dit, ça pourrait être expliqué par une planète quelque part qui serait là. On pointe le télescope là où il a dit, elle était là.
Incroyable.
Et ensuite, la même histoire se répète, c'est-à-dire par le calcul, en 1930 pour Pluton, avec Lowell et Tombaugh. Je ne sais pas comment ça se prononce. Mais
ouais, voilà. Ouais, c'est un Clyde Tombaugh.
Voilà. Alors, voilà ces planètes. Donc, voilà, Uranus, Neptune, Pluton, hein, avant le XVIIIe siècle, ça n'existait pas. On n'en avait même pas conscience.
Mais oui.
Donc, est-ce que ça peut faire partie de quelque chose comme l'astrologie? Ben, pour moi, par exemple, ça se discute.
Alors, on pense que, avec preuve à l'appui, que Galilée a observé Uranus, mais qu'il n'en a pas tenu compte. Il écrivait un peu toutes ses observations, et par le calcul, aujourd'hui, on a vu avec, par exemple, le logiciel Stellarium, on peut mettre la date qu'on veut et voir le ciel à telle date. Et bien, on a vu qu'à telle ou telle observation, il avait Uranus dans son champ de vision, mais alors, soit il ne l'a pas vu, soit il ne l'a pas noté. Il aurait pu être le découvreur de... d'Uranus en 1600 et quelques.
Possible, on ne le saura probablement jamais.
Mais bon, mais à part ça, oui, effectivement, c'est des planètes qui étaient complètement ignorées.
Qui étaient complètement inconnues.
Ouais. Très inconnues. Discret aussi. Ouais.
Hein. Oui, bien sûr.
Donc voilà, toujours cette idée, si ces symboles sont là pour être lus, hein, je repars dans ces logiques qu'on adhère ou pas astrologiques, si ces symboles sont là pour être lus, s'il y a des choses qui ne sont pas visibles à l'œil nu, est-ce que réellement ça a un sens d'en tenir compte? Moi, bon, c'est tout. Alors ensuite, c'est pas tout à fait terminé. Parce que, OK, il y a ces planètes-là, mais on a aussi les planètes naines. Et donc voilà, c'est aussi un lien. Là, je pense qu'on est complètement hors astrologie, puisque je ne crois pas, par exemple, que l'astrologie tienne compte de Cérès.
Non.
Mais moi, j'avais envie de parler de Cérès, parce que c'est un petit monde que je trouve très, très intéressant.
Je sais qu'il y a des courants d'astrologie, comme tu dis, qui utilisent Uranus et Neptune.
Oui, ça, c'est sûr.
Pas.
Pluton, c'est sûr.
Mais
ah oui, parce que je n'ai pas dit
mais pour
quand même.
Cérès et les autres.
J'ai pas terminé. Non.
La pauvre.
J'ai pas terminé. Je m'étais arrêté à Mars, mais je n'ai pas parlé de Jupiter et de Saturne. Et donc, si on regarde ce système solaire voilà, à un niveau un peu symbolique, on a Mercure, donc on a la source de vie qui est le Soleil, on a Mercure qui est le messager des dieux. On a ensuite, nous, la Terre, enserrée entre ces deux pôles masculin-féminin que sont Vénus et Mars. Et ensuite, dans le système solaire, il y a quoi? Il y a une ceinture d'astéroïdes. Alors, j'en profite. Alors, invisible à l'œil nu. Peut-être vestige de l'explosion d'une planète qui se serait trouvée là. En tout cas, puisqu'on parlait de Cérès juste avant, le lien, il est que Cérès, il est dans cette ceinture d'astéroïdes.
Oui.
Et que, enfin, non seulement Cérès est dans cette ceinture, mais elle représente même un tiers de la masse totale de la ceinture. Donc, en réalité, ce n'est pas juste un truc qui est paumé.
Non, Cérès, elle est plus grande que Ganymède, la plus grande lune de Jupiter.
Voilà. C'est déjà une planète qui, me semble, fait autour de 2000 km de diamètre, quelque chose, entre 1000 et 2000 km, de toute façon, pour ces corps-là, qui est sphérique, Cérès. Et qui donc orbite là. Alors Cérès, pour le coup, en fait, elle a été découverte quand même assez tôt, enfin en 1801, pour un corps de cette taille, donc de cette luminosité, je pense que c'est un exploit, et qui elle aussi a été découverte par le calcul, en fait, par un Italien qui s'appelle Piazzi. Et lui, en fait, c'est pas les calculs dont on a parlé précédemment, c'est des calculs de résonance gravitationnelle. Donc, c'est-à-dire qu'il est en 1801, il y avait donc déjà la gravitation de Newton qui était passée par là depuis un moment. Mmh. Et ils avaient déroulé les calculs et ils avaient trouvé en fait que si on prenait les planètes qu'ils connaissaient, et en fait, il y avait des positions qui étaient favorisées, plus stables que d'autres. Des certaines distances du Soleil pour les orbites.
Oui.
Et ça fait des résonances. Quoi. Et c'est en calculant ça qu'il a dit qu'il doit y avoir une planète à 2,8 unités astronomiques. Et en fait, c'est l'orbite de la ceinture d'astéroïdes.
Mmh.
Et Cérès est dedans. Et c'est comme ça qu'il l'a découvert. Donc c'est quand même intéressant aussi, là, cette histoire de résonance. Tu vois, pas que acoustique, mais aussi gravitationnelle, ça existe. C'est là qu'on voit aussi la nature ondulatoire de ces interactions, ce qui est complètement pas très intuitif, mais ça existe, hein, puisqu'on en est là, hein, en physique théorique, à détecter les ondes gravitationnelles.
Bien
donc,
sûr,
voilà. Ouais. Ok. Alors, et donc, Cérès, c'est Déméter. Au niveau de... C'est la déesse Déméter, c'est la déesse, donc...
Ça, ça a été nommé, du coup,
des moissons,
après 1800.
En 1800.
Parce que c'est pas les Grecs qui l'ont nommé.
Non, Déméter. 1800. Ouais. Mais en fait, ils ont voulu garder dans les noms qu'ils ont accordés au petit corps du système solaire cette continuité de mythologie grecque. Ouais. Voilà. Donc, on a Cérès. Je parlais donc des planètes naines. On a ensuite, il faut aller dans la. Alors voilà, et Jupiter et Saturne, je le mentionne. Bah, Jupiter, c'est Zeus, c'est le père des dieux.
Dieu des dieux.
Donc là, voilà. Et c'est en même temps la plus grosse planète du système solaire. Donc là, c'est pareil en astrologie. Jupiter, qui est dans votre signe, et bien c'est un signe de force, etc. C'est aussi le père, c'est aussi l'homme accompli, etc. Et ensuite, derrière, on a Saturne. Alors, Saturne, c'est Chronos, mais attention, pas Chronos, le dieu du temps. Il n'y a pas de H. C'est
le père des titans, non ?
C'est un titan, Chronos, et en fait, c'est le père de Zeus. C'est le père de Zeus, Poséidon, Hadès. Donc, Hadès, c'est Pluton. Je rappelle aussi, Pluton, c'est Hadès, si on veut continuer la série. Neptune, c'est Poséidon, donc le frère
mais
de Zeus.
Il me semble que effectivement, c'est écrit Chronos avec un K, mais c'est Chronos du
non,
temps.
C'est pas non, le, non, c'est le. Ouais, okay, certain. Okay. En fait, c'est une confusion assez courante.
D'accord.
J'avais creusé le truc, c'est pas lui.
Justement, Chronos, il a un H. Pour moi, dans l'idée, il y avait le temps qui arrive
en
avant
fait,
les
raison.
Dieux.
En fait, oui, parce qu'en fait, il porte aussi cette symbolique-là.
Ah oui.
Mais au niveau mythologique. C'est pas le même.
Oui, mais le temps en tel quel, ils n'avaient pas la même définition que nous, les Grecs. Quand nous, on parle du temps, c'est un truc différent, c'est un concept.
C'est plus un concept philosophique. Ouais.
Ouais.
Mais c'est sûr que, par contre, donc, ce Chronos Saturne, donc, c'est le grand-père. Donc, de toute façon, il y a cette notion du temps d'avant.
Oui, voilà.
De toute façon, c'est un titan, pérédité, etc. Ouais. Et aussi, un peu, il a aussi cette notion d'influence cachée. Des choses aussi d'influence extérieure aussi. Tu vois, c'est quelque chose qui vit d'ailleurs, d'autres qui vient influencer les choses. Bon, il y a tout ce truc un peu inquiétant aussi autour de Saturne et de Chronos.
Oui. Oh, pardon, après, donc
non,
Uranus,
mais voilà.
C'est Neptune.
Bah, Uranus, donc Uranos, c'est le ciel.
Ouais.
Neptune, c'est Poséidon, le dieu de la mer, donc le frère de Zeus. Ouais. Et puis on arrive avec Pluton, c'est Hadès, le troisième frère. Voilà, donc on arrive quand même sur un peu les saintes trilogies, sainte trinité de la mythologie grecque. Et donc
d'ailleurs,
on arrive au fond du système solaire. Pardon.
Non, j'allais préciser que la lune de Pluton, on l'a appelée Charon pour c'est le guide jusqu'à aux enfers.
Tout à fait, c'est vrai. Ouais, c'était le passeur du.
Oui, le passeur d'âme. Ouais, c'est ça.
Ouais.
Le gondolier sur le Styx.
Alors voilà, donc on peut s'amuser avec tout ça, comme je vous dis, vous prenez le symbole d'une planète, vous prenez le symbole d'une constellation basée sur votre observation, et puis vous commencez à croiser tout ça, et en fait, il y a moyen de s'amuser. Et pour terminer, on va parler de la ceinture de Kuiper, donc on rappelle, la ceinture de Kuiper, c'est les confins du système solaire. C'est, en fait, Pluton a été déclassé il y a quelques années, ça a été un gros débat. N'est plus une planète et est considérée comme une planète naine maintenant du système solaire, au même titre que Cérès. Et Pluton est un objet donc de la ceinture de Kuiper, qui est une espèce de ceinture. Alors, ceinture au sens où on est toujours sur quelque chose qui est dans le disque du système solaire et qui est plutôt plein de corps froids.
Qui matérialiserait un anneau, mais
un
pas,
anneau.
Pas du tout plein.
Pas dense. Pas,
oui, voilà, pas
plein
dense.
De petits trucs.
Oui.
Mais au sein de ces petits trucs, en fait, il y a plein de choses.
Oui.
Et donc, il y a une équipe. Qui a l'air qui est extrêmement dynamique là, c'est l'équipe de Michael Brown au Caltech, donc en California Institute of Technology.
Ouais.
Et lui il se qualifie comme spécialiste des objets transneptuniens. Donc c'est-à-dire à partir de Pluton quoi.
Ouais.
Et en fait, il a déjà identifié et ont été authentifiés comme planètes naines déjà trois objets. Donc en réalité en planète naine, on a maintenant 5 planètes naines officielles qui sont Pluton, Cérès, et donc trois objets de la ceinture de Kuiper qui ont été découverts en 2005, qui sont Eris, déesse de la discorde, Makemake, qui est le dieu créateur, un dieu créateur dans la mythologie de l'île de Pâques, et Omea, qui est la déesse hawaïenne de la fertilité et de l'accouchement.
Ouais.
Voilà. Donc ces trois corps-là ont été découverts à peu près en même temps par cette équipe du Caltech et ont été homologués. Et ils ont encore des candidats. Donc ça, c'est des corps qui font entre 1000 et 2000 km de diamètre.
Il y en a un, je crois que c'est Makemake qui tourne très vite sur lui-même, ça lui donne une forme très aplatie.
Voilà,
de
et qui ne sont pas
rugby.
Forcément sphériques, en fait, ce que j'allais dire, c'est pas forcément sphérique. Et parfois, ils ont effectivement des satellites ou des petites lunes, comme c'est le cas de Makemake ou d'Omea, qui en a même deux.
Ouais.
Donc voilà des petits mondes, alors qu'ils sont très loin du Soleil. Oui. Ça, c'est clair. Donc, en termes de vie, de tout ça, je ne sais pas ce qu'on peut trouver là-bas, mais en tout cas, s'il y a des formes de vie, d'où est-ce qu'elles tirent leur énergie, comment... Bon, je sais pas. Ouais. En tout cas, pas du soleil.
Oui. Ça, oui.
Et voilà, ces gens travaillent... Voilà les développements un peu, on va dire, de la planétologie, ou en tout cas de la connaissance du système solaire. Mmh. Et la mission de JUICE, elle va aussi dans cette direction-là, d'essayer d'aller un peu plus loin dans ce type de... dans ce type de connaissances. Et ben on va faire une petite pause musicale.
Ouais, merci Fred. Ouais, moi je vous propose un joli morceau d'un groupe colombien, Onda Tropica, qui s'appelle Cumbia Espacial.
Bon retour dans l'Étoile polaire, l'émission d'astronomie amateur. Alors, on va continuer le déroulement de cet épisode. Là, maintenant, c'est Rémi, tu es notre envoyé spécial dans le ciel austral.
Envoyé austral. Ouais, j'avais envie de vous parler un petit peu d'un voyage que j'ai pu faire là, au début du printemps. J'ai eu l'occasion d'aller travailler en Australie, plus précisément autour d'Adélaïde, en plein sud. On était latitude 35 sud. Du coup, ouais, ça fait loin de chez nous, c'est à peu près 140 est. Donc, ouais, un petit bout plus loin. Donc, ouais, toujours un plaisir d'observer là-bas, rien que de jour, de voir le soleil au nord.
Eh oui.
Voir le soleil au nord qui se couche toujours à l'ouest, mais qui a une trajectoire inversée. Ouais, ouais, ouais. Du coup, ça fait prendre un peu la mesure de la grandeur de la planète. Comme si on était passé dessous, on était passé de l'autre côté. Du coup, ça, c'est relativement intriguant, intéressant. Après, pour ce qui était du ciel nocturne, c'était sympa. En mars, on avait encore Jupiter, on avait des beaux alignements avec Vénus, et puis Mars qui n'était pas très loin. Donc, non, c'était super, super pour ça, de changer un peu de géométrie, je dirais. Puis chez nous, on a l'habitude, quand on regarde le nord, quand on regarde l'étoile polaire, que le ciel tourne dans un sens anti-horaire.
Oui.
Et à l'inverse, là-bas, le ciel tourne dans le sens horaire. Quoi.
Oui, si on regarde vers le... Ils n'ont pas d'étoile polaire sud, mais vers la Croix du Sud, constellation...
La Croix du Sud n'est pas très loin du pôle sud. La constellation la plus proche, c'est l'Octant.
Oui.
Et c'est vrai qu'il n'y a pas d'étoile remarquable qui matérialise le pôle céleste sud. Quoi. Mais bon, on voit très bien, si on observe rien qu'une heure ou deux, on arrive assez vite à voir le mouvement du ciel. Donc, ouais, on avait Orion, les Gémeaux, le Taureau, tout ça, toutes les constellations remarquables de l'hiver qui étaient plein nord. Et qui nous apparaissait à l'envers, quoi. Même le lion, tête en bas. Oui. Ouais, c'est assez rigolo. C'est assez rigolo à se rendre compte que, bah oui, on est vraiment pas au même endroit qu'on a l'habitude.
De l'autre côté, quoi. De la boule, quoi. En bas de la boule. Là où normalement tu devrais tomber.
Ouais,
t'as la tête vers le bas.
Ouais. Non, là, du coup, c'est sûr qu'il y a peu de débat. Hein. La Terre est pas plate.
Il y avait une blague, l'Australie lance son programme d'exploration spatiale, c'est facile, ils ont juste à lâcher la fusée, la décroche, elle tombe vers l'espace.
Ouais. Facile. Non, du coup, on avait toujours accès aux grandes étoiles d'hiver, hein, donc Sirius, qui était quasiment au zénith, hein, que nous on voit quasiment à l'horizon plein sud. Et puis d'autres étoiles remarquables de l'hémisphère sud, comme Canopus, dans la constellation de la Carène, Achernar, dans les Ridans, Rigille Canturus dans le Centaure, voilà. Puis la Croix du Sud, assez remarquable, une espèce de losange, un peu comme un cerf-volant, qui est dans la Voie lactée, avec les étoiles Acrux et Mimosa.
Qui est sur le drapeau de, pas de l'Australie, mais d'un pays proche, d'un pays voisin, je ne sais plus. Sur leur drapeau, il y a la constellation qui apparaît.
Ouais, du coup, la Voie lactée d'hiver du ciel austral, elle est très garnie, je dirais plus que nous, parce qu'en fait, elle a beaucoup d'étoiles brillantes. Et puis, les nébuleuses sont vraiment remarquables, quoi. On voit à l'œil nu, moi, j'ai eu l'occasion d'aller un peu dans des zones désertiques. C'est d'ailleurs le ciel le plus pur auquel j'ai pu avoir accès. L'échelle de Bortol, c'était un 1, donc j'avais jamais eu...
Encore plus pur que quand tu es allé dans la Katama, là.
Ouais, dans l'Atacama, c'était 2. Ici, autour de Valdrome, on est à 3. Autour de Die, on est à 4. Et ouais, c'est vrai que c'est abondant, le ciel est abondant. Donc ouais, ça, c'était assez remarquable. C'est-à-dire que même en nouvelle lune, la nuit, on y voyait clair, quoi.
C'est
assez remarquable.
Éclairé par la Voie lactée, tout
voilà. Ouais, c'est ça. Ouais, du coup, voilà, en observant un peu les cartographies.
Les nuages de Magellan.
Ouais, 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 bah, le nuage de Magellan, on a l'impression qu'il y a un nuage météo, mais en fait, non, c'est un objet du ciel profond.
Ah,
ouais, il y a le grand nuage dans la Dorade et le petit dans l'Hydre Mâle.
C'est pour rappel, des galaxies naines qui orbitent autour de la galaxie Voie Lactée.
Et qui sont les plus proches de nous.
Du coup,
non, c'est pas les plus proches,
de cette taille en tout cas.
Assez proches.
Il y en a des minuscules qui sont un peu plus proches, il me semble. Mais aussi visibles, aussi grandes, c'est les plus proches.
Galaxies irrégulières, ouais, qui n'ont pas une forme de spirale un peu plus commune que les autres. Et donc, dans la Voie Lactée, on a la nébuleuse de la Carène aussi qui se remarque. On voit qu'on n'est pas dans de l'obscurité, quoi. Il y a un nuage clair qui apparaît. On a aussi les Pléiades du Sud qui ressemblent vraiment aux Pléiades, mais en plus petit.
Ah oui. Un amas ouvert aussi.
Ouais, un amas ouvert, ouais. Ouais, y a beaucoup, beaucoup d'objets dans le ciel austral d'hiver, en tout cas. Moi, je ne connais pas le ciel d'été austral, mais. Voilà, après, il y a des tas de nébuleuses que j'ai pu observer un peu aux jumelles dans ce ciel pur, qui ont des noms rigolos. Il y a la nébuleuse du poulet qui court, la nébuleuse du trou de serrure, de la statue de la liberté.
Ah oui, c'est ça.
L'amas du sac à charbon. Enfin, bon, ils ont été très imaginatifs dans le ciel austral. Même dans les constellations, il y a des noms rigolos comme la machine pneumatique, la grue,
le microscope,
voilà, le réticule, le poisson volant, la mouche, l'oiseau de paradis.
Oui.
Voilà. Et puis il y a des constellations assez majeures comme, on en a parlé, la Croix du Sud. Le Centaure, c'est une constellation qui est très étendue aussi, un petit peu de la cabine du dragon pour nous dans l'hémisphère nord qui
serpente,
qui court.
Ouais, autour du pôle sud céleste. Ouais. La constellation de l'Éridan.
Ouais, l'Éridan et l'Hydre aussi.
L'Éridan, on la voit un peu ici, bas sur l'horizon.
Mais... Ouais, très bas, ouais. Ouais, ouais. Ouais, c'est intéressant parce que du coup, on a accès quand même aux constellations qu'on connaît qui sont au sud pour nous. Par contre, on n'a pas du tout accès aux circumpolaires, quoi, en latitude 35. On peut vraiment pas espérer voir la queue de la Grande Ourse ou quoi. Donc,
Mais ce qu'on voit clairement dans les noms de constellations, en tout cas, c'est que autant dans l'hémisphère nord, on en parlait, on est à fond dans la mythologie grecque, autant dans l'hémisphère sud, on est vraiment dans le monde des navigateurs, de l'époque de Magellan et de la découverte des Amériques et de tout ça. Quoi.
Du colonialisme, parce qu'évidemment, les peuples,
les navigateurs,
les peuples de l'hémisphère sud avaient déjà des constellations, avaient déjà des noms, et on a gardé celles des Européens qui débarquaient. Et qui voyaient, qui ont inventé du coup les choses. Les outils de l'époque, le sextant, l'octant.
Complètement.
La règle.
Il y a tout plein de termes maritimes, je crois. Il y a la carène, il y a les voiles, le palan. Il y a plusieurs termes.
Le ciel d'été, ça, ouais.
J'imagine que c'est un peu comme ici aussi. Tu dois avoir des constellations qui sont un peu évidentes, genre que toutes les cultures ont dû identifier, type apparemment la Croix du Sud ou des trucs. C'est des choses qui sont, tu vois, des symboles clairs. Et puis d'autres où c'est complètement aléatoire et où les gars, ils ont décidé comme ils ont voulu. Moi, je m'y connais pas assez en mythologie et en astronomie, tu vois, de tous ces peuples du Pacifique.
Ouais, ou de l'aborigène, par exemple.
Ou d'aborigène, par exemple.
Ou des Mayas.
Sud. C'est assez vaste, la manière dont ont été décidées les constellations, au final. Donc non, c'est assez intéressant. Même avec les collègues avec qui j'étais, je me suis aperçu qu'on avait un certain automatisme visuel, en fin de compte, sur un ciel qu'on connaît. Même quelqu'un qui ne connaît pas spécialement le ciel, il va forcément reconnaître des astérismes, des constellations, une sorte de schéma visuel de tous ces points qui brillent dans le ciel. Et là, c'était vraiment autre chose, une libre interprétation. Du coup, on a déliré à inventer des constellations aussi, nous, avec nos interprétations. On a eu le droit à la constellation du canard... plein de choses, voilà. Bon. Et puis, on arrivait à se les partager, quoi. Juste à en parler, quoi, même sans laser ou quoi. Non, c'est chouette. C'est toujours aussi fascinant de se balader sur la planète et puis de voir que le ciel est différent, quoi. Voilà, donc n'oubliez pas de lever les yeux au ciel pendant vos voyages. C'est toujours bénéfique.
Bah oui, comme tu disais, ça permet, avec un peu de réflexion, de appréhender la grandeur de la planète, quoi. Ça me l'avait fait, je crois que j'en avais déjà parlé, en étant au Maroc, et de voir la Lune à demi-pleine, horizontalement, voilà.
Oui, la Lune est flagrante.
Et que je l'ai vue, je faisais même pas encore d'astro à ce moment-là, c'était un peu avant. Et je me suis dit, tiens, c'est bizarre, et j'ai réfléchi un peu, je me suis dit, ah ben oui, la planète ronde, j'étais en France, je suis là, plus près de l'équateur, tout ça. Et, Et là, pareil, quand tu nous racontes que tu avais Sirius au Zénith, je me revois avant-hier en haut de la montagne de Bergès pour, avec, Zénith, avec Sirius pardon, presque à l'horizon. Donc, imaginez Rémi qui était par là-bas, beaucoup, beaucoup plus loin.
Ouais, c'est une échelle assez troublante quand même.
Et oui.
Eh ben, merci Rémi.
Merci
pour cette, ce reportage austral. On va terminer l'émission avec toi, Axel. Donc, tu vas nous parler d'une. On va revenir un peu dans le temps et voir comment, dans les années 60, là, les gens ont vécu une éclipse de soleil dans le sud-est de la France.
Oui, c'est ça. C'était en février 61, précisément le 15 février. J'ai récupéré un article du Dauphiné qui, je crois, chaque semaine, chaque dimanche, peut-être, il réédite un ancien article historique du Dauphiné actuellement. Et donc, ils ont republié cet article qui parle de l'éclipse totale du Soleil en 1961, visible depuis le sud-est de la France, l'Italie, un petit peu la Suisse, je crois. Alors, pour rappel, une éclipse totale du Soleil, c'est quand la Lune passe précisément, la nouvelle Lune, du coup, quand elle n'apparaît pas de nuit, c'est qu'elle est proche du Soleil. Et parfois, l'alignement est parfait. Elle passe devant le soleil, elle nous masque sa lumière en plein jour, pendant quelques minutes. Et donc, le 15 février 61, il y avait beaucoup de monde qui s'est rassemblé autour de Grenoble pour monter en haut du Moucherot pour observer cette éclipse. Alors, je vais vous lire quelques passages de cet article. Déjà, il parle de comment les gens s'équipaient pour observer cette éclipse, parce que évidemment, éclipse ou pas, le soleil, on l'observe pas à l'œil nu, ni même encore moins avec des instruments d'optique. Et donc il faut ruser, et alors à l'époque, ils nous disent qu'à Grenoble, on part à la recherche de verre fumé. C'est ainsi que M. Gaston Auguste, commerçant spécialisé dans la soudure, voit subitement une nouvelle clientèle passer à la porte de sa boutique. Des médecins, des professeurs, des enfants, qui viennent acheter pour 3,30 francs de sécurité optique. 3,30 francs, je ne sais plus, je crois que ça fait 45 centimes aujourd'hui. Donc voilà, on est chez ce soudeur. Qu'est-ce qu'on achetait avec ça? En fait, alors, soit ils vendaient un casque de soudure à 17 francs, soit la petite plaque de verre qui va sur les masques de soudure, voilà, de 10 centimètres. La protection idéale à l'époque. C'était pas la seule solution, il y avait aussi l'idée de prendre des pellicules photographiques très fortement voilées, ou alors une plaque de verre qu'on venait faire brûler au-dessus d'une bougie. On allumait une bougie et on vient fumer le verre comme
noircir,
ça. Noircir. Alors, il nous raconte que les parents confirment que tous les enfants qui ont essayé ont fini tout noir après avoir essayé de fumer leur verre. Évidemment, il n'y a pas que les enfants et les curieux qui ont envie de s'amuser. Du côté des physiciens, on tient aussi à tenter des expériences. 6 d'entre eux pensent d'abord fabriquer un télescope spécialement pour l'occasion, jusqu'à ce qu'une idée plus originale surgisse, réutiliser un vieil instrument abandonné dans un coin de labo, un télescope de fabrication française de marque Secrétan, qui date de 1877. Et là, on est en 1961, il a bientôt 100 ans, le télescope. Une fois un peu trafiqué, pour pouvoir mesurer l'éclipse et la filmer même, on l'emmène au sommet du Moucherot et on verra bien. En 15 jours, on remet d'aplomb le mouvement d'horlogerie, on astique le miroir, on imagine le support pour la caméra. Tout le monde se pique au jeu, la caméra est fournie gratuitement par une entreprise parisienne et un laboratoire lyonnais promet de développer le film dans les plus brefs délais. Voilà, évidemment, les journalistes étaient sur place aussi, des journalistes du Dauphiné. Et ils nous relatent un peu tout le mouvement qu'il y a eu ce jour-là, du 15 février. Pour l'éclipse, les scientifiques ils veulent l'observer, mais ils veulent aussi calculer exactement sa durée, mesurer la durée précise entre le moment où la Lune... pas le moment où la Lune rentre et elle sort, mais le moment précis d'obscurité totale. L'ombre projetée de la Lune sur Terre se déplace à 3700 mètres par seconde. Donc c'est quand même une mesure précise qu'ils espèrent faire. Voilà, on a aussi des fonctionnaires, on a des gens de Genève, de l'ONU, du Centre européen de recherche nucléaire, de l'Office météorologique, et bien sûr des citoyens, des curieux. La météo est bonne au matin du 15 février, 80% de chance de beau temps. C'est prévu au petit matin entre 8h35 et 9h44. Tout le monde s'installe à 1500 mètres d'altitude. Évidemment à Saint-Michel l'Observatoire aussi, pas très loin, dans les coupoles à 1500 mètres d'altitude. Les spécialistes sont prêts aussi, il y a la même la télévision qui est sur place. Ils ont déjà eu de la télévision quelques années auparavant et ça s'était mal passé. Il y avait un pendule astronomique qui avait fini par terre et cassé. Donc là, ils ont limité, ils ont dit ok, 10 caméras, enfin 7 caméras dans les coupoles et 3 qui seront dans un bombardier B-17 de l'Institut géographique de l'armée qui va tourner à 8000 mètres et filmer l'altitude avec moins d'atmosphère, du coup, moins de perturbations atmosphériques. Et puis, il y a une espèce de curieux aussi qu'on n'attendait pas là-haut. À première vue, on a rassemblé des troupeaux de moutons. Parce qu'il paraît que les animaux deviennent nerveux en cas d'éclipse. Du coup, on a réquisitionné des troupeaux pour les observer, pour que les scientifiques observent leur comportement. Il y a des éthologues qui viennent observer le comportement de ces moutons. Au total, c'est quelques 2000 personnes qui se rassemblent en haut du Moucherotte. Certains vont essayer de prendre des photos, il y a quelques astronomes amateurs. Et puis avec les appareils jetables de l'époque, pas jetables, les appareils à pellicule, évidemment, on est dans l'argentique hein, à l'époque. Il y avait même Kodak qui avait distribué gratuitement des milliers de pellicules à tout le monde, voilà, pour se faire un petit coup de pub. Donc il doit y avoir quelque part autour de chez nous des photos, peut-être dans des casiers de cette éclipse. Plus loin dans la Drôme, a dit, il ne précise pas comment c'était, il précise qu'à Montélimar, c'était complètement nuageux, ils n'ont rien pu voir. Et donc l'éclipse se passe, comme prévu. Elle a duré précisément 1 minute et 55 secondes, l'éclipse totale. Donc un phénomène quand même très court. Que dire du résultat les moutons déjà. C'est important. On est des moutons, ah oui, voilà. Les comportements étranges, alors comment ça s'est passé? Le journaliste du Dauphiné, il est secoué. Dès le début de l'éclipse, il a un serpent qui lui a glissé entre les pieds. C'était déjà présage bizarre. Preuve que les animaux ont été perturbés, et bien même pas. Les moutons apportent un démenti formel. Durant tout le phénomène, ils ont continué à brouter sereinement. L'éclipse les a laissés indifférents. Voilà, évidemment, les gens sont contents. Les scientifiques ont réussi à mesurer. À Saint-Michel, l'Observatoire, ils ont fait des clichés intéressants, mais beaucoup se sont retrouvés regrettablement surexposés. Voilà, on a une petite histoire aussi pour finir. Le journaliste qui était à Saint-Michel, l'Observatoire, pour consoler un peu les photos surexposées, qui dit... au moins, vous aviez bien prévu, ça s'est passé au moment où vous aviez dit et tout. Et il dit, ah non, mais ça, c'est pas nous qui avons calculé, on utilise des tables qui ont 700 ans. Preuve qu'à l'époque, on savait
moment,
déjà faire des choses précises. C'est
un moment qu'on les prédit, les éclipses. Hein.
Et,
oui.
Et même bien avant 700 ans en arrière.
Voilà, c'est pas évident, l'imagerie des éclipses, c'est vraiment pas évident parce que c'est un mix de deux matériels, du matériel solaire et du matériel plutôt traditionnel.
Et puis là, argentique en plus, voilà, à l'époque.
En plus, en argentique. Oui. Donc souvent, les photographes, quand c'est vraiment le moment de l'éclipse totale, enlèvent tous les filtres solaires pour avoir une image un peu moins lumineuse. Mais c'est très difficile, c'est un entre-deux à trouver qui est assez très difficile.
Il y a aussi toute une époque où c'était le seul moment où ils pouvaient observer la couronne. Couronne solaire. Ouais, ouais. Ensuite, il y a eu le coronographe qui a été inventé. Je ne sais pas à quelle époque, mais bon, il y a un moment où ça n'existait pas. Et quand ils voulaient voir la couronne, c'était que pendant l'éclipse. Quoi. Le coronographe, c'est une sorte de télescope qui, à l'intérieur, a une sorte de cache qui masque en fait, le disque
le
du soleil
de l'image,
en permanence. Il faut faire vraiment gaffe à comment c'est réglé et tout, parce que... c'est toujours pareil, on l'a dit, mais quand on observe le soleil dans un instrument d'optique, on devient aveugle. Mais ça marchait. Quoi. Moi, j'en avais déjà observé. J'ai le souvenir d'avoir observé il y a longtemps dans un coronographe. C'est quand même... Tu peux regarder en permanence la couronne. Alors après, maintenant, il y a ces filtres qui permettent de le faire, mais qui n'existaient pas à l'époque.
Filtre hydrogène, oui.
Parce que voilà, pour cette petite histoire du... 15 février 1961 au Moucherotte, aux alentours de Grenoble. Et peut-être on peut conclure en parlant de nous, nos souvenirs d'éclipses solaires. Est-ce que vous en avez? vous avez pu assister?
Moi, pas vraiment. Enfin, la seule fois où j'étais vraiment proche d'en voir une, en fait, ce jour-là, c'était nuageux. Et en fait, j'étais vraiment blasé. Ah bah oui. Mais c'était dans le nord-est, nord-ouest de la France.
D'accord.
Donc, en fait, non, j'ai vu, il y a eu ce moment d'obscurcissement, où clairement, alors, il faisait pas réellement nuit non plus, mais c'était sombre et c'était étrange comme ambiance, mais avec des nuages, du vent, un temps un peu pluvieux. Ouais, c'est tout. Après, des éclipses, sinon, j'ai vu des éclipses partielles.
Les éclipses partielles sont relativement plus courantes, quand même. Moi, j'en ai observé trois, disons... sur les 10 dernières années, quoi. Avec les masques de soudure, c'est vrai que c'est assez efficace, puis c'est toujours beau à voir, quoi, dans la journée. Et puis sans ça, c'était l'éclipse de 98 ou 99, à laquelle on a eu accès, et puis je me souviens qu'ils distribuaient des lunettes spéciales, justement, pour voir l'éclipse, et puis moi, j'étais avec le bout de verre noirci sur la bougie, ça fonctionnait bien.
Mais moi, c'était celle-là où c'était nuageux,
cette
année-là.
99. Moi, je l'ai observé, d'ailleurs, à quelques mètres du studio duquel nous enregistrons, dans le jardin, chez mes parents. J'avais 7 ans. Et du coup, pas beaucoup de souvenirs, mais je me souviens qu'on s'était réunis un peu avec les voisins. Et on avait ces lunettes qui distribuaient gratuitement, qu'on pouvait se procurer en pharmacie, je crois. C'était peut-être une entreprise photo aussi.
C'était une sorte de millard, quoi.
Une sorte de feuille d'alu. Essayez pas avec une feuille d'alu, ça protège pas, c'est vraiment plus filtrant. Et c'était aux alentours de midi, là, au mois d'août, si je me souviens bien. Et je me souviens, on avait beau temps, c'était un phénomène marquant, intéressant à voir, à expérimenter. Ce silence un peu, je pense que toute la ville s'est arrêtée, les voitures sont arrêtées pour voir. C'est un moment hors du temps.
Ça fait partie des phénomènes naturels assez impressionnants.
Alignement mystique.
Et puis la luminosité qui revient, d'un coup la chaleur avec.
Ok, merci Axel. Ce petit retour dans le passé qui en fait, c'est un peu, ça se reproduit un peu toujours pareil à chaque fois. C'est vrai que comme on l'a dit, c'est pas si fréquent qu'on peut avoir chez soi une éclipse de soleil totale. Après, il y a les chasseurs d'éclipses qui sont des passionnés, qui ont le temps et les moyens aussi de parcourir le monde un peu pour aller les observer.
C'est vrai qu'il y a une idée reçue un peu commune, qui est que les éclipses totales, c'est rare. En fait, non, c'est rare à un endroit donné.
C'est ça.
Mais au niveau de la Terre entière, il y en a peut-être pas tous les ans, mais tous les deux ans,
pas loin,
quelque chose comme ça.
Il y en a une prévue l'année prochaine, dans un an, là.
Oui.
Accessible depuis le continent américain.
Oui, c'est ça, Nord-Amérique. Et un peu plus proche de chez nous, ça sera pour 2026, une qui passe par l'Islande d'abord, puis tout l'Atlantique, et qui sera aussi visible du coup du Nord-Portugal, Nord-Espagne, qui finit vers la Corse, je crois. Il sera partiel de Corse, sûrement partiel de France métropolitaine aussi.
À suivre.
Mais voilà.
Ah, super.
Et bien, merci. On va clôturer là l'émission.
On souhaite une bonne journée sur Radio Diwa.
Une bonne journée sur Radio Diwa, de bonnes nuits d'observation et à la semaine prochaine.
Salut.
Ciao.